un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Des histoires, des enquêtes, des reportages.
C'est bizarre quand les choses arrivent.
Sophie de Réan est une petite fille de 3 ans qui vit heureuse avec ses parents à la campagne dans un joli château. Loin d'être une petite fille modèle, Sophie n'est pas toujours facile. Elle est gourmande, un peu égoïste, elle enchaîne les bêtises qui lui attirent des malheurs. Sa mère, aimante mais juste, disparaît malheureusement en mer dans le tome 2. C'est alors Madame Fichini qui la remplace, une femme bête, ridicule et cruelle, qui ressemble au marâtre des contes de fées et martyrise la pauvre enfant à coups de verge et de martinet. La situation ne fait qu'empirer après la mort du père de Sophie. Heureusement, la petite fille peut compter sur Camille et Madeleine, ses meilleures copines, qui habitent dans le château voisin. Et surtout, sur Madame de Fleurville, leur mère, qui prend Sophie en pitié et essaie de la soustraire à l'horrible belle-mère. Elle parvient même à convaincre Madame Fichini de lui confier Sophie, qui s'installe alors au château de Fleurville. Sophie reçoit de cette dame, Madame de Fleurville, sa mère de substitution, et de Camille et Madeleine, ses sœurs adoptives, toute l'affection et la douceur dont elle a besoin. Tout de suite dans Les Pieds sur Terre, ce ne sont pas les malheurs de Sophie, mais comme Madame de Fleurville, le bonheur de deux vraies fausses mères qui racontent leur adoption. D'autres mères que la mienne, troisième volet par Élise Andrieux.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je suis Babette, j'ai 67 ans, et je vais vous raconter mon histoire qui commence par l'envie d'accueillir un enfant supplémentaire. Donc, j'avais déjà une famille constituée de 2 enfants, et j'ai toujours eu envie d'en avoir beaucoup, enfin plusieurs. Et un jour, j'ai lu un article dans un journal local. Il y avait sur la dernière page un article sur une association qui proposait des accueils bénévoles pour les vacances. Et c'était des enfants issus de l'immigration. Et ça m'a fait tilt, je sais pas pourquoi, c'était le moment, mon fils allait très bien, il avait 2 ans, tout se passait bien, et j'en ai parlé à mon mari, qui a été tout à fait d'accord, et voilà, un jour, on a eu un accord d'aller chercher une petite fille à la gare de Saint-Brieuc, l'avant-veille de Noël. Nous sommes donc arrivés sur un quai de gare et il y avait là une dame de l'association qui, bien sûr, nous a présenté cette petite fille noire qui s'appelait Joëlle et qui était superbe, entourée d'un foulard rose. Ça faisait ressortir sa couleur et ses yeux. C'était magnifique. Et du coup, le premier contact a été tout à fait simple. On lui a dit, on s'appelle Gérard, Babette, tu vas venir passer les vacances chez nous, mais tu retourneras dans ta famille, il n'y a pas de problème. On a essayé de la sécuriser un maximum. Elle n'a pas dit un mot. On est monté dans la voiture et notre fils, qui n'avait que 2 ans à l'époque, était au milieu, je me rappelle bien, entre les deux filles. Et avec ses mots d'enfant, il a dit, ah, vous m'avez dit qu'elle était noire. Et elle est noire. Et bien noire. Voilà, je me rappelle de ça. Elle avait 7 ans. François, donc notre fils, avait 2 ans. Et Kelly, qui est donc la fille aînée, avait 13 ans. Et donc, on devait partir sur Rennes fêter Noël en famille. Joël n'avait pas de robe ou d'habits un peu festifs comme on peut se mettre à Noël. Je me souviens avoir été dans un magasin pour lui acheter une robe. Elle disait oui à tout, enfin, elle n'était pas... Et puis, nous sommes arrivés chez mes beaux-parents. Souvent, on mange souvent des fruits de mer en Bretagne et c'était entre autres des huîtres. Et elle a fini par dire à un moment donné, mais vous mangez des cailloux ? Et c'est vrai qu'on n'avait jamais réalisé que pour quelqu'un qui n'a jamais vu d'huîtres, ça peut être des cailloux. les huîtres. Donc autrement, ben ça s'est passé. Elle a passé sa nuit, enfin, partie de sa nuit, sur mes genoux. Elle avait 7 ans quand même, hein, donc elle était lourde. Mais c'était vraiment le poids d'une histoire, quoi, qui commençait. Et ah oui, alors on n'avait pas du tout d'éléments. Hein. On savait qu'elle venait d'une famille du Zaïre, qu'elle vivait avec sa mère, sa tante et ses cousins à Paris depuis 1 an. Et c'est tout, on n'avait pas beaucoup d'éléments sur sa vie. Hein. Assez rapidement, nous avons eu contact avec la famille biologique de Joël. Et très rapidement est arrivée la demande suivante, c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez garder Joël plus longtemps ? Peut-être qu'elle nous a dit, d'ailleurs à ce moment-là, qu'il vivait dans des conditions très compliquées. Ils habitaient Pantin dans un petit 2 pièces, mais minuscule. Et là, il devait être 2 adultes, donc la maman et la tante, et au moins 6 ou 7 enfants. Enfin, c'était des conditions de précarité très dures. Pas de papier, pas de travail. Donc, on réfléchit quand même, hein, parce que c'était pas un engagement simple. Parce qu'effectivement, on n'avait pas d'échéance. Hein, donc, ça peut être 3 semaines, 2 mois, 6 mois, 10 ans, 20 ans. On savait pas. Donc, on a réfléchi, on en a parlé à nos enfants. Et on a dit d'accord jusqu'aux vacances de février. Donc, voilà, le matin de la rentrée, je l'emmène à l'école. Elle monte avec son petit cartable qu'on avait acheté entre-temps, etc. Pas de problème. Les mois passent et puis très vite, la famille demande à ce qu'on puisse la garder à plus long terme. On en parle à Joël en lui disant, ben voilà, ta famille demande si tu veux continuer à rester ici. D'emblée, elle a dit oui. Et très vite, elle a exprimé dans ses mots d'enfant le fait de vouloir rester vivre chez nous. Par exemple, en refusant de rentrer en vacances à Paris. On l'a envoyé à Paris par la SNCF, hein, enfant accompagné. Et une fois, sur le quai de gare de Morlaix, je me revois encore, la mettant dans le train, elle hurlait. « Tu n'as pas le droit de m'envoyer là-bas, tu n'as pas le droit, tu ne dois pas m'envoyer là-bas. » Je dis « Mais Joël, je ne peux pas faire autrement, j'ai un engagement avec l'association, avec ta mère, avec ta famille, il faut que tu gardes des liens avec ton histoire, tout ça, je ne veux pas. » Et je l'ai poussé dans le train avec l'hôtesse qui l'attendait puisqu'ils étaient accompagnés. Qui comprenait pas, quoi, qui ne comprenait pas qu'est-ce que je faisais, moi, à vouloir obliger cette petite fille à rentrer chez elle alors qu'elle hurlait qu'elle voulait pas y aller. Donc, voilà. Plus tard, il y a même eu, je sais plus situer ça dans le temps, j'ai un coup de fil de sa mère qui me dit « Babette, je sais plus quoi faire, ta fille, elle est montée sur le balcon, elle veut sauter. » Je lui dis « Mais qu'est-ce que tu me racontes? C'est pas possible. » Ils habitaient au 4e ou 5e étage à Pantin.
Elle a dit ta fille.
Ah oui. Ah ben, c'était toujours ta fille. Hein. Et là, je prends Joël au téléphone, j'essaye d'être le plus calme possible parce que, ben, effectivement, j'ai le cœur qui battait. Je me dis, qu'est-ce qu'on a enclenché en accueillant cet enfant-là? Enfin bon. Et j'explique, j'ai dit, écoute Joël, non, c'est pas possible, tu peux pas faire ce genre de choses. On va en discuter, je vais venir te chercher, mais descends s'il te plaît. Elle a fini par descendre. Et je crois que c'est cette fois-là où j'ai pris le train. Et je suis allée à Pantin chercher Joël. Et j'ai discuté avec sa mère. Et on était, je dirais, de femme à femme, de maman à maman. Et on a parlé, elle a compris en disant, mais ouais, il faut qu'elle reste là-bas, moi je ne peux pas m'en occuper. Et au fur et à mesure des années, on s'est rendu compte qu'elle avait une relation très compliquée avec cet enfant, la maman, sa maman. Très conflictuelle. Sa mère n'était pas non plus quelqu'un qui était bien. Elle a eu mal à son Afrique et je crois qu'elle l'a toujours. C'est-à-dire qu'elle est venue en France pensant trouver le paradis. Elle me l'a dit, ça. Et elle avait vraiment du mal à s'occuper d'elle-même et de sa fille. Donc, à partir de là, elle est allée moins souvent en vacances, mais elle y est allée quand même parce que c'était important. Mais Joëlle, elle, à l'époque, disait ouais. Mais ce qu'elle voulait, c'était être intégrée en Bretagne. Elle voulait même ouvrir une crêperie comme métier plus tard. Elle aurait un camion, elle aurait une coiffe. Bientôt, elle aurait mis la coiffe bretonne, alors que ça se fait plus du tout. Et elle aurait fait des crêpes et comme ça, voilà. Dans sa tête, elle était devenue française. D'ailleurs, elle disait mon père, ma mère, en parlant. Alors que nous, on n'a jamais souhaité qu'elle appelle papa, maman. Hein, c'était Gérard et Babette. Mais c'est pas ça l'important. C'est les relations qu'on a de mère et fille, quoi. Même si je suis pas appelée maman, je sais qu'elle compte sur moi comme une maman. À l'adolescence, ben, elle a un comportement d'adolescente. Normal, je dirais, donc c'est bien parce que ça veut dire qu'elle est complètement intégrée à la. Elle fait une scolarité tout à fait normale dans. Sur le cursus, quoi. Hein, troisième, lycée. Et puis après, ben, les choses se sont enclenchées. Elle a eu son bac, elle a fait ses études, elle a fait deux premières années de médecine qu'elle n'a pas eues, mais ça, elle n'est pas la seule. Et après, elle a démarré des études de kiné, et maintenant les kinés. Et sur sa plaque de kiné, il y a les deux noms. On a fait en sorte que ça ne puisse jamais s'effacer. Et parce que je pense que de toute manière, pour toute personne, on ne peut jamais effacer ça. Tu ne peux pas effacer tes origines et tout ça. Joëlle, elle a deux mamans. Sa maman utérine, bien sûr, et sa maman qui l'a élevée. Et l'une n'annule pas l'autre. Il n'y a pas une bien, une pas bien, il n'y a pas ces deux mamans. Qui ont eu des fonctions différentes auprès de Joëlle dans tout le courant de sa vie. Et entre-temps, elle a quand même eu un compagnon qui lui a fait 4 filles. Donc elle est aussi devenue maman. Et après les 2 premières filles, sont nées des jumelles. Et leur grand-mère, donc africaine, est venue pendant pas mal de temps chez Joëlle, pour l'aider avec ses 2 petites. Voilà, elles ont fait de la bouffe africaine, elle s'est occupée des bébés, pas de problème. Même les bébés ont été portés sur le dos, comme les femmes africaines portent les bébés, quoi. Et Joëlle a dit, texto, je crois me souvenir, « Mes jumelles ont réparé mon histoire ». A permis la liaison de mon histoire entre ma famille blanche et ma famille noire. Et voilà.
Je suis née maman, oui, c'est vrai. Enfin, j'ai vraiment ressenti très tôt le désir d'enfant, puis j'aimais beaucoup quand j'étais jeune les petits-enfants. Bon, j'ai peut-être adopté beaucoup d'enfants, mais il y a plein de personnes qui m'ont appelée maman. Je m'appelle Marie-Thérèse, j'ai 84 ans bientôt, enfin fin d'année, j'aurai 84 ans. J'habite Roubaix depuis 81. Et avant, j'habitais Croix, qui est juste à côté de Roubaix. Voilà, mais je suis vraiment du Nord. Alors, mon mari était quincaillier. Et voilà, ses grands-parents étaient quincailliers. Après, son père était quincaillier, puis lui est devenu quincaillier. Moi, j'étais vendeuse dans une coopérative. Et puis, on aimait les enfants, donc l'un l'autre. On avait décidé d'avoir des enfants, mais on n'avait pas fixé un nombre. Et après la première fausse couche, après avoir mis au monde Marie-Laurence difficilement, on a perdu un petit garçon le lendemain de la naissance. Et après une nouvelle fausse couche, on s'est dit, oh là là, il faudrait peut-être mieux qu'on arrête ici. Il y a sur Terre plein d'enfants qui ont peut-être besoin de parents. Et voilà, on a décidé d'adopter comme ça. Et J'ai un jour entendu à la télévision que Terre des Hommes faisait adopter des enfants. C'est comme ça qu'on a demandé l'adoption. Et on s'est dit, ben, on va travailler pour justement cette association. C'est une association qui s'occupait aussi d'enfants qui étaient délaissés, qui étaient abandonnés. Et puis, avant d'avoir le premier enfant, c'est-à-dire Virginie qui venait de Corée, eh bien, on a attendu 2 ans. On l'a attendu 2 ans, oui. On est allé un jour la chercher à Orly. Et puis, on a découvert une toute petite fille, toute mignonne. Elle avait un tout petit nez rouge, un petit nez de rien du tout. Vraiment un tout petit nez, c'était... Voilà. Et tout de suite, on l'a aimée. Tout de suite. Moi, c'était comme ça dans mon cœur. C'est très difficile à m'expliquer, mais c'est ainsi. J'aime, c'est tout. Après, c'est un enfant africain qui est arrivé, totalement aussi délaissé par le père. Et la maman ne voulait pas d'enfant, mais elle en a eu plusieurs. Bon, il a maintenant 50 et des poussières. Hein. Il est toujours chez nous, il a un appartement chez nous. Il est arrivé à l'âge de 7 ans. Et il était terrible, ouais. Parce qu'il avait été abandonné, enfin, il avait été délaissé, peut-être totalement. Bon, c'est pas facile, hein, quand on se rend compte que nos parents ne veulent pas de nous. Eh bien, voilà, ça ne peut pas être donné un enfant facile. Ce n'est pas possible, ça. L'enfant, il faut qu'il reçoive l'amour. Quand il ne le reçoit pas, il manque quelque chose, il n'y a rien à faire. L'amour. L'amour, c'est tout. Et l'amour, c'est tout. Pour faire un enfant, c'est l'amour qui fait l'enfant. S'il n'a pas reçu d'amour, l'enfant ne peut pas être enfant. Et petit à petit, s'il se laisse aimer, eh bien, il peut mais guérir de 7 ans sans amour, c'est difficile. Ça reste difficile. Donc, au départ, même il rejetait. Il n'acceptait même pas qu'on l'embrasse. On ne va pas lui imposer un baiser de force. Donc, on attend. Dans l'adoption, c'est l'attente aussi qui est... voilà.
Et là, vous avez attendu longtemps avec lui ?
Eh bien, j'attends encore. Ben oui, parce que voilà, c'est tout ce qu'il a vécu l'a marqué pour toute sa vie. Et puis un jour, on nous demande, c'est toujours l'assistante sociale qui nous téléphonait souvent, voilà, on a une petite fille qui est délaissée totalement, elle est sourde. Est-ce que vous connaîtriez une famille qui pourrait l'accueillir ? Alors on s'est dit, mon mari et moi, ben on va aller voir. Donc on est allé, et celle qui est devenue notre fille était une petite fille de 5 ans, mais totalement rejetée là, totalement rejetée. Elle était abandonnée, elle était martyrisée, et enchaînée comme un petit animal. Elle nous a regardés, elle est venue un peu nous renifler, et bon, on était surpris. Et puis on a décidé de l'accueillir et c'est là où ça a été difficile au départ. C'est-à-dire elle crachait sur moi, elle me mordait, elle me pinçait. Voilà, je me donnais des coups de pied. Voilà, c'était très difficile pour elle d'être acceptée, d'être aimée. Il faut accepter, pouvoir accepter d'être aimée, c'est pas toujours évident. Je prenais sa main quand elle me faisait mal ou je l'embrassais. À chaque fois, je lui faisais preuve de ma tendresse, quoi. Et petit à petit, elle s'est laissée apprivoiser. Elle avait besoin d'être apprivoisée, c'est tout. Et un jour, j'avais reçu, parce qu'on commence à s'occuper de Terre des Hommes, on recevait des choses pour pouvoir donner après. Donc on avait reçu un landau. Et le landau, moi j'étais en train de repasser, le landau était dans le salon, près de moi. Et ma petite fille sourde était là. Et donc elle voulait aller dans le landau, donc j'ai accepté de la mettre dans le landau. Et au bout d'un moment, elle m'a fait des gestes, elle voulait une couche. Donc j'étais en train de repasser une T, donc je lui ai mis comme si c'était une couche. Et puis après, elle m'a fait le geste comme quoi elle voulait boire. Donc je l'ai pris dans mes bras et j'ai fait semblant de lui donner le biberon. Et je la regardais, elle m'a regardé dans les yeux, mais ce regard d'enfant, c'était inimaginable. C'était comme un nouveau-né, comme un nouveau-né. C'était ce regard, celui qui regarde la maman, eh bien dans les yeux, comme ça, fortement. Elle me regardait, ça m'a vraiment bouleversé ce regard. C'est elle qui m'a choisi à ce moment-là comme maman. Mais j'avais senti quand même que sur cette violence, parce qu'elle était très violente, eh bien, le fond de ma petite fille sourde, eh bien, c'était la douceur. J'ai ressenti ça en elle, oui. Oui. Et petit à petit, ben, elle est devenue cette enfant douce qu'elle était.
Et vous aviez assez de place pour les accueillir, tous ces enfants ?
Oui, j'avais une petite maison et quand les enfants sont petits, bah, c'est pas très difficile de dormir dans la même chambre. Mais on n'a jamais réfléchi avant d'accueillir un enfant si on serait, on aura assez d'argent pour l'élever. Mais non, on a accueilli l'enfant et on a vu. Voilà, et ça s'est bien passé. Après, hein, j'ai eu aussi un coup de fil d'une assistante sociale qui m'a dit, bah, voilà, je connais un petit garçon, il faut qu'il soit enlevé de la famille. La maman vit avec deux hommes et ça va pas du tout. Il y a déjà 8 enfants d'enlever. Donc il faudrait que quelqu'un puisse accueillir cet enfant et il faudrait qu'il soit enlevé aujourd'hui même. Bah, j'ai dû vous l'emmener. Voilà. Et puis il est resté parce que voilà, il reste à la maison. Et au départ, il m'appelait madame. Il me connaissait pas. Donc il disait madame. Et puis un jour, il a entendu les autres m'appeler maman et au bout d'un moment, il m'appelait maman. Et voilà, c'est devenu notre enfant aussi. Voilà Pierre-Vincent.
Bonjour.
Caroline, elle te déshabille, ça ira ? D'accord, tu pourras venir dire bonjour après. Voilà Pierre-Vincent. Pierre-Vincent, c'est un de nos enfants adoptés. Il est venu à l'âge de 2 ans. Mais ça, là aussi, un jour, je reçois un coup de fil. Et puis on me dit, ah tiens, tu sais, à tel endroit, il y a un enfant. C'est dans une pouponnière de la DAS. Il y a un enfant qui a ni bras ni jambes, qui a été abandonné à la naissance. Et moi, ça m'a fait tilt dans le cœur tout de suite. Oh, tout de suite, ça m'a touchée. Et j'ai dit, ben voilà, j'aimerais bien pouvoir l'accueillir. Alors mon mari est rentré le midi, et à la maison, il avait l'habitude de dire, alors quoi de neuf ? Alors je lui explique que voilà, il y a pour l'adoption, il y a un enfant qui dans une pouponnière qui n'a ni bras ni jambes. Et Marie-Laurence tout de suite dit, ben pourquoi on ne le prend pas chez nous ? Marie-Laurence, c'est notre première fille, c'est la fille qu'on a mise au monde. Voilà, et tout de suite, eh bien, voilà, mon mari dit, bah oui, mais ça, tu te rends compte, ça va donner du travail à ta maman et tout ça. Mais je pense que ça pourrait aller. Puis on a décidé ensemble de l'accueillir, c'est-à-dire ensemble mon mari et moi, puis tous les enfants. Ils ont dit, bah oui, ils ont dit oui. Ah ben, ça fait mal de savoir que bon, il puisse être rejeté, que quelqu'un puisse être rejeté. On est tous des êtres humains, tels que l'on est, qu'importe comment on est, qu'on soit handicapé ou non handicapé, on est des êtres humains. Je ne sais pas ce que c'est normal. Qu'est-ce que ça veut dire normal ? On a besoin d'être aimés tous. Qu'importe. Va dans ton panier. Allez, va dans le panier, là. Va vite, mon petit chat. Non, non. Mon fauteuil, tu l'as déjà abîmé. Tout abîmé. Bon, j'en étais où ?
Et après lui ?
Après lui, il faut que je réfléchisse. Hein. Oui, et puis il y a eu Frédéric qui est arrivé à l'âge de 3 ans environ. Et elle avait sa maman et on l'a accueilli pendant 6 mois avec la maman. Et un jour, la maman est repartie et elle avait eu le temps de faire un autre enfant. Et puis, bon, elle est restée à la maison. Mais elle devait repartir parfois avec sa maman qui sortait de l'hôpital psychiatrique. Jusqu'au jour, elle a pu venir et confiée par le juge des enfants, elle est venue habiter totalement chez nous. Elle se savait plus en sécurité quand même. Elle savait qu'elle avait à manger tous les jours. Elle m'appelait maman après aussi. Il y a plein de personnes qui m'ont appelé maman. Plein de personnes qui venaient ou des personnes que j'accueillais parce que je n'ai pas accueilli des enfants. J'accueille aussi des personnes dans la rue, j'ai accueilli des Roms, j'ai accueilli des clochards, j'ai accueilli beaucoup. Enfin, allô ? Oui, ma chérie. Ah bah non, pas du tout, je savais pas. Bah tu peux venir si tu veux. Bon, viens 5 minutes, je t'attends. C'est notre coréenne.
Elle habite à côté de chez vous?
Oui, à côté de maison. D'accord. De maison à côté, donc elle va venir. On n'en a pas plus accueilli que plus de 9 à la maison. Ça a toujours été 9 à peu près. Quand il y en a qui partaient, il y en a d'autres qui arrivaient. Moi, je n'ai pas choisi le moment, je n'ai pas choisi. Oh, bah, on est moins, maintenant on va adopter. Mais non, ça s'est fait comme ça. Je n'ai pas choisi. Ça s'est fait tout seul. Je n'ai jamais, regretté d'avoir adopté, quel que soit l'enfant. Je n'ai jamais regretté une adoption. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'enfants, mais j'ai toujours dit à mes enfants, je ne vous téléphone pas. Parce que maintenant, je sais que c'est leur vie, et ça les regarde, ce qu'ils veulent vivre. Ils ont pris ce qu'ils pouvaient, à l'époque, avec ce qu'ils étaient, de valeurs qu'on essayait de leur donner. Et puis maintenant, ils essayent de vivre. Donc, je vais vous me téléphoner quand vous voulez. Je serai toujours heureuse de vous avoir. Vous venez manger quand vous voulez, vous venez dormir quand vous voulez. Je serai toujours très contente de vous voir. Maintenant, voilà, ça leur appartient. Ça leur appartient. Des enfants viennent pas, ça dépend. Des enfants me téléphonent pas. Tu vas ouvrir, ça va? Voilà mon petit-fils qui arrive, sans doute. Ou mon arrière-petit-fils, peut-être. Mon arrière-petit-fils.
Arrête, c'est Noé.
Alors, Noé, tu viens pas dire bonjour à grand-mère? Viens dire bonjour à grand-mère, Noé. Il y a longtemps que je t'ai pas vu, quand même. Il y a longtemps, mon chéri, que je t'ai pas vu. Oui, mon chéri.
Grand-mère, peux-tu me donner un chocolat blanc?
Oh, mais bien sûr. Mais bien sûr, je ne vais pas oublier. Je ne l'ai pas.
J'aime bien un chocolat blanc.
C'est bien. Ouais, j'ai pas oublié, tu sais.
Tu sais combien elle a eu d'enfants, Marie-Thérèse?
25.
Non, mais
tous mes enfants sont des cadeaux. Voilà. Difficile à déballer quelquefois pour trouver vraiment ce qu'ils sont. Encore un peu de fièvre, t'es encore un petit peu malade.
Ouais.
Oh, mon chéri.
Oh, t'es fatiguée.
Ça va partir. Ça va partir.
Tu veux que j'aille lui donner un galac, c'est ça?
Un bout de galac, oui. Tu sais, un petit carré. Tu en lui donnes deux.
Oui, deux.
C'était D'autres mères que la mienne avec Babette et Marie-Thérèse, le troisième épisode de cette petite série dont je vous recommande d'écouter les deux premiers qui s'appellent D'autres mères que la mienne. Élise Andrieux en est l'auteur. Cette émission-là a été réalisée par Émilie Vallat, mixée par Olivier Dupré. Merci à Babette, Marie-Thérèse, Joël, Frédéric Bedos, Dominique Goupillon et Léa. C'est Jeanne Copé, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et Justine Calais, notre stagiaire.
France Culture présente Le secret de la licorne. En offrant à son ami Haddock le modèle réduit d'un navire, Tintin ne se doutait pas que cette maquette était la réplique de la licorne que commandait un aïeul du capitaine.
Et je suis persuadé que si nous parvenons à réunir les trois parchemins, nous découvrirons les diamants de Rackham le Rouge. Et je sais déjà où trouver le second. Venez, capitaine!
Cette découverte va les mettre sur la piste d'un mystérieux trésor. Les aventures de Tintin, le secret de la licorne, un podcast réalisé par Benjamin Habitant sur franceculture.fr et l'appli Radio France.